Bonjour à tous. Dernier jour de notre série sur l'économie du crime. Hier, nous avons observé comment les banques participent au grand lessivage de l'argent sale, des fonds astronomiques issus des trafics, des organisations terroristes ou de la fraude transitent par les paradis fiscaux et atterrissent plus blancs que neige sur les comptes des grandes banques internationales. Pendant ce temps, sur le terrain, petits dealers et gros bonnets brassent des milliards d'euros grâce au commerce de la drogue. Ce business représente un gagne-pain pour certains, mais il plonge aussi des territoires dans un cycle de violence qui peine à être maîtrisé. Vous écoutez France Culture et vous avez raison. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. De l'économie du deal, nous avons le plaisir d'accueillir Nasser Lalam, économiste, chef du département études et recherches à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Avec nous également en duplex de Clermont-Ferrand, Claire Andrieux, journaliste, auteur d'une enquête sur le trafic de stupéfiants intitulée « La guerre de l'ombre » publiée le mois dernier chez De Noël. En fin d'émission, les nouvelles de l'écho vous seront présentées par Xavier Martinet. Nasser Lalam et Claire Andrieux, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait du Convoi, le film de Frédéric Schoendorfer, qui raconte le trajet de quatre go-fast transportant plus d'une tonne de cannabis depuis Malaga, au sud de l'Espagne, vers Creil, en banlieue parisienne. Après un échange de coups de feu avec la police, Yacine et Rémi accusent le coup.
Putain, il faut que ça m'arrive maintenant, ça.
Eh, mais on est des cons aussi. On se fait tirer dessus pour 15 000 balles, mon frère. T'es pas d'accord?
Mais si, je suis d'accord, là, c'est envie, là, arrête de me saouler, là.
Non, mais tu vois, ce qui me fout les nerfs, c'est qu'on pourrait se faire 100 fois plus sans se faire tirer dessus.
Et alors, ouais, même si on peut se faire 200 fois plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à ton compte, c'est ça?
Bah ouais.
Toi, tu vas faire du business avec les Marocains, toi, tout seul, tranquille, comme ça.
Mais quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont commencé comment, les Mahmoudis, à ton avis, là?
S'il te plaît, parle-moi du point G, c'est mieux, je te jure, t'es plus sérieux quand tu dis ça.
T'es moi, j'ai tout calculé, mon frère. Regarde, le business plan, ça s'appelle. Faut juste une petite mise de départ, tu vois, un petit capital, on amorce la pompe et on rembourse le reste après le premier voyage. On se fait ça tranquillou, toi, moi, et Inch'Allah, moi, j'ai...
Nasser Lalam, c'est par des go-fast comme celui-ci que le cannabis, qui est la drogue la plus consommée dans l'Hexagone, parvient jusqu'en France?
C'est une des modalités d'acheminement effectivement du cannabis sur le territoire, sur la en métropole, avec toutefois un aspect un peu spectaculaire qui a bien été repris notamment par dans le cadre cinématographique. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les modalités sont multiples, à commencer par l'utilisation des poids lourds. Il y a des mouvements de transport routier régulier entre le Maroc, l'Espagne et la France, et les trafiquants utilisent évidemment ce qui est le plus rentable d'une part et le plus sécur en termes de risque. Et effectivement, on a retenu les GOFA, c'est aussi une pratique de la part des gros trafiquants qui souhaitent que le risque soit non plus de leur côté, mais du côté des trafiquants de moyenne envergure qui donc vont assumer le risque en assumant ce transport. Donc au départ de la France, on se rend en Espagne, on charge la marchandise et on repart, moyennant quoi on a une voiture ouvreuse, une voiture avec le produit et une voiture suiveuse.
C'est l'une des routes,
la modalité assez répandue ces dernières années.
C'est l'une des routes de la drogue, mais quand on regarde la cocaïne, c'est bien différent. Claire Andrieux, elle vient d'Amérique du Sud et pour le coup essentiellement par bateau.
Oui, pour l'acheminement, mais ceci dit, le cannabis qui vient du Maroc traverse lui aussi la mer à un moment ou à un autre, puisqu'il y a la mer d'Alboran qui fait face aux côtes marocaines et espagnoles entre les deux pays, et puis le détroit de Gibraltar également. Alors effectivement, on a davantage de gros transporteurs et ces gros porte-containers qui acheminent la cocaïne en direction de l'Europe et notamment de la France, puisque c'est un point d'entrée très important. Mais encore une fois que c'est arrivé en gros, un peu comme ce que Nasser décrivait avec l'Espagne, eh bien il faut que les trafiquants s'organisent pour venir la chercher. Donc on retrouve encore une fois des convois après terrestres avec des véhicules toujours. Même si le terme « go fast » est toujours utilisé, finalement les trafiquants vont beaucoup moins vite qu'avant pour moins se faire repérer. On a beaucoup moins les grosses cylindrées, il y en a toujours bien sûr, mais c'est rarement pour prendre les policiers de vitesse. C'est surtout pour les repérer en amont sur la route. En fait, voilà, et ce que Nasser disait aussi et qui est très vrai, c'est que c'est un gros cloisonnement entre les équipes, c'est-à-dire qu'on va avoir les grossistes qui se font le plus de marge, qui vont être sur l'exportation, l'importation en gros, avec évidemment un travail à l'international et des équipes qui vont travailler par opportunité, et ensuite des trafiquants qui sont pas forcément, voire pas du tout pour certains en lien hiérarchique ou à la botte des exportateurs qui, eux, vont prendre plus de risques sur le territoire en venant chercher la marchandise dans les fameux go fast.
Pour finir, le tour d'horizon des drogues qui sont consommées en France, il y a donc d'abord le cannabis, ensuite la cocaïne, et on peut aussi à la marge parler des opiacés et des drogues synthétiques, Nasser Lalam.
Oui, tout à fait. Avec le cannabis qui reste le champion en matière de prévalence, puisqu'on a quasiment près de 45% des 18-64 ans qui ont expérimenté le cannabis en France. On a ensuite la cocaïne, l'héroïne qui est encore présente, même si effectivement il y a eu une chute assez brutale grâce à la politique de réduction des risques mise en place depuis 1995. La mise sur le marché de la méthadone et du subutex a permis de réduire drastiquement la consommation d'héroïne. Et puis on a depuis maintenant, à bas bruit, depuis les années 2000, les drogues de synthèse avec des sinusoïdes en termes de consommation, ecstasy, MDMA, amphétamine.
Et ça vient principalement des Pays-Bas.
Alors oui, les Pays-Bas c'est un pays producteur qui nous fournit depuis un certain nombre d'années. Il y a une vraie spécialité, mais on va retrouver aussi en République tchèque par exemple. Et ça se répand dans la mesure où ce sont des filières courtes et les laboratoires ont tendance à se mouvoir assez facilement.
Alors le business de la drogue représente en France entre 3 et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on obtient ce chiffre, Nasser Lalam, alors que, évidemment, comme c'est une économie souterraine, c'est nécessairement quelque chose qui est difficile à appréhender.
Oui, vous avez raison. Par définition, c'est compliqué. Alors on a de très belles enquêtes en France qui sont réalisées par un organisme public, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies notamment, et puis Santé publique France. On a deux grosses enquêtes, Escapade et le baromètre santé, qui nous permettent ensuite d'approcher une consommation globale. Donc on a, par exemple pour le cannabis, on interroge les consommateurs sur une base importante, hein, avec un effectif important. On leur demande ce qu'ils ont consommé, comment ils ont consommé, à seuls, à plusieurs, où ils ont acheté le produit. Et on arrive donc à avoir la consommation, l'intensité de consommation, la fréquence de consommation, et on valorise ça au prix du marché. Le cannabis aujourd'hui, si on prend par exemple la résine, c'est entre 6 et 7 euros le gramme. Si on prend l'herbe, c'est autour de 10 euros le gramme. Et ensuite, on fait la sommation de tous ces éléments et on obtient en gros une fourchette en valeur du marché du cannabis.
Il y a eu des évolutions méthodologiques qui ont permis d'appréhender plus finement ce que représente ce trafic de drogue en France, Claire Andrieux.
Je pense que Nasser est un des plus grands spécialistes justement de ces méthodes de calcul, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fois en fait tous les indicateurs montrent une évolution à la hausse de l'économie du marché de la drogue, c'est-à-dire que autant la consommation, la prévalence, autant le prix de la drogue et également la production dans les pays sources, parce que c'est aussi très important quand on parle du trafic de drogue et aussi de la lutte contre le trafic de drogue, de comprendre que elle n'est pas produite en France, enfin pour l'immense majorité, même si on parlera peut-être un peu de la cannabiculture indoor, ça vient de pays étrangers. Et là, on est face à des surfaces de production de coca en Colombie, par exemple, qui ont triplé ces dernières années, qui ont littéralement explosé depuis qu'on a arrêté l'épandage aérien de glyphosate sur les champs de coca qui étaient financés par les Américains.
Pour des raisons écologiques.
Exactement. Et ça sanitaire pour les deux, parce qu'il y avait aussi de gros dégâts sur les populations. Et donc, des stocks en hausse, ça signifie que le marché des États-Unis, qui est déjà extrêmement bien pourvu, est presque à saturation. Et on voit par contre une explosion d'arrivées vers la destination Europe, qui, elle, n'est pas saturée, puisque finalement, les prix de la drogue ne baissent pas. Donc, ça montre... Alors, bien sûr, on a la puissance qui augmente. Donc, on voit que c'est moins coupé tout de même. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup sur le marché. On a moins besoin de la couper. Mais par contre, au détail, ça ne baisse absolument pas, ce qui signifie que les consommateurs sont au rendez-vous.
Les consommateurs sont au rendez-vous. Et ce que l'on observe pour la cocaïne, la serre, la lame, c'est que quand l'offre augmente, la demande suit.
C'est une bonne question, parce qu'effectivement, du point de vue économique, on a tendance à dire que c'est la demande qui va tirer l'offre. Or là, on a des stratégies de la part des trafiquants qui sont capables de susciter la demande, avec des techniques de marketing, avec y compris avec des façons d'hameçonner le client qui sont très intéressantes du point de vue économique.
De quelle façon, par exemple ?
Par exemple, ils vont faire de la promotion régulière. Ils vont dire, vous prenez 3 grammes et on vous offre le 4e gramme. Mais ça peut être autre chose, ça peut être sur la qualité aussi. Ça peut être sur la qualité. Depuis quelques années, effectivement, comme le dit Claire, on voit une augmentation de la pureté du produit de détail. On est aujourd'hui à plus de 60% au gramme de rue, ce qu'on appelle le gramme de rue, ce qui en fait un produit. Alors, c'est pas synonyme toujours de qualité. Ça va dépendre des consommateurs de ce qu'ils recherchent en termes d'effet. Mais grosso modo, le consommateur est plutôt satisfait de la cocaïne qui lui est servie aujourd'hui sur le marché. On a d'autant plus, on a une filière relativement courte qui nous vient de Guyane. Avec ce qu'on a bien documenté aujourd'hui avec les mules qui transportent parfois incorporées ou sur eux-mêmes des ovules de cocaïne et qui vont ensuite alimenter les marchés, y compris les marchés en province en France.
Et si l'offre augmente, Claire Andrieux, c'est aussi parce que c'est un marché extrêmement rentable. Il y a peu de marchés qui ont des marges aussi énormes.
Ah oui, ça c'est certain, c'est-à-dire que je crois que le taux de rentabilité, mais c'était dans l'étude, je reprends les chiffres de l'étude de Nasser notamment, c'était 30-40%, retenez-moi si jamais je dis une bêtise, pour le cannabis et plus de 60%, jusqu'à 60% ou plus de 60% pour la cocaïne, c'est vraiment énorme. Et après il y a les mules de Guyane, c'est vrai, même si finalement incorporées ou dans les bagages, elles transportent quelques kilos, donc c'est toujours relativement limité, mais là c'est vrai que c'est direct, comme le dit Nasser. Après c'est très gros porte-containers. Il faut imaginer que au Havre, on décharge 2 millions de containers et que c'est énorme. On peut mettre sur un porte-container qui peut faire la longueur d'un stade de foot, la hauteur de l'Arc de Triomphe, on peut mettre 2000 petits containers qui vont faire, eux, 2 mètres de hauteur sur 6 mètres de long. Et aller chercher sur un porte-container comme ça qui porte des milliers de containers, aller chercher 100 kilos ou 2 tonnes, là on est sur des quantités beaucoup plus importantes et qui sont extrêmement difficiles à trouver.
Un secteur extrêmement rentable, Nasser Lalame, et qui est désormais inséré dans le PIB. Je crois que ça représente, ce trafic de drogue en France, 0,12% du PIB. C'est pris en compte depuis 2 ans.
Oui, c'est ça. Alors, ça a été très controversé en France. On a freiné dans la mesure où il y a des principes qui prévalaient du type il faut un accord mutuel dans la transaction entre le consommateur et le vendeur. On a considéré qu'avec les stupéfiants c'était valable. C'est moins vrai avec la prostitution, donc la prostitution a été écartée de ce calcul. Et aujourd'hui on est autour de 3,1 milliards selon l'INSEE. Si on diminue des importations, ça fait 2,7 milliards le secteur des drogues en France en termes de valeur.
Et on l'a ajouté au PIB parce que les autres pays le font déjà, donc pour une question de comparaison internationale.
Exactement, c'est une question d'homogénéité à l'échelle européenne. Eurostat était assez pressant pour que les États adoptent les mêmes normes en termes d'enregistrement comptable au niveau national.
Alors comment devient-on dealer ? Je voudrais vous faire entendre ce témoignage extrait des Pieds sur Terre.
Je m'appelle Almas, j'ai 19 ans et voilà, arrivé un moment, j'ai un peu dérivé parce que j'étais tenté pour faire ça. Tous les jours, je marchais dans le quartier, je voyais le trafic, font 50 000 par jour, un truc comme ça. Des gens, ils faisaient des sous sans rien faire. Donc moi aussi, je me suis dit, ça serait pas mal si je peux gagner des sous comme ça. Tu te poses pas trop de questions parce que ils sont gentils avec toi. Ils font juste ce qu'ils ont à faire. on voit souvent les mêmes têtes. Donc après, ça y est, on commence à les connaître, on commence à devenir nos amis. Le premier jour, j'étais guetteur. Guetteur, en gros, c'est quoi? C'est tu te mets, et à chaque fois qu'il y a une voiture de policier en civil, ou de policier normal, ou des CRS, tout ça, eh ben ça crie. Ça crie pour avertir le vendeur, pour que le vendeur, en gros, soit il se cache dans un appartement, soit en gros il court jusqu'à il les esquive. Après j'ai décidé de vendre, vu que la paye du vendeur elle est meilleure que celle du guetteur. Guetteur, si on fait toute la journée, c'est 100 euros et vendeur c'est 200 euros la journée.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé le 12 avril 2018 sur France Culture. Nasser Lalame, qu'est-ce qui caractérise l'entrée des jeunes dans le monde du trafic de drogue?
Alors évidemment c'est un processus, on ne devient pas trafiquant, on le devient. Et une forme de sociabilité de quartier, très souvent. L'activité qui rapporte dans un contexte social assez dégradé, ça reste le trafic de stupéfiants. L'économie souterraine globalement, mais en particulier le trafic de stupéfiants qui est l'activité la plus accessible. Donc pour des jeunes qui très souvent sont en rupture scolaire, quand je dis des jeunes, je pense à partir de 13-14 ans, qui sont en rupture scolaire. Quand bien même l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, un certain nombre se retrouvent exclus pour diverses raisons. Et ceux-là vont être une espèce d'armée de main-d'œuvre au profit des trafiquants qui sont installés.
Et souvent, on commence par être guetteur.
Alors,
c'est là
voilà,
la porte d'entrée.
Exactement. Donc, alors, parfois, il y a des fratries. Donc, on voit les plus grands trafiquer et on va s'insérer petit à petit dans le trafic. Néanmoins, c'est effectivement, il y a des paliers. On commence très souvent par... moi, j'ai produit un article qui s'appelait « La canette et le sandwich », qui montre bien comment on va appâter le jeune, c'est-à-dire qu'on va lui demander de rendre un service. Les trafiquants donc doivent rester sur le point de vente, sur le four, et du coup vont demander aux jeunes d'aller les approvisionner en boissons, en sandwichs, etc. Et c'est un premier contact entre le trafiquant et le jeune, et ils sont capables de déceler les trafiquants, de déceler chez les jeunes ceux qui sont des potentiels recrues. Et donc ils vont sélectionner ces jeunes pour guetter, pour ensuite assurer un minimum de sécurité, voire être en contact avec des nourrices, etc. Donc c'est un premier palier, et petit à petit, il y a des effets d'apprentissage, effectivement. Et là, on voit certains qui montent dans la hiérarchie, et d'autres qui n'y parviennent pas et qui restent dans des fonctions subalternes ou qui passent à d'autres activités délinquantes.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un business qui entraîne des profits très importants, mais évidemment ce marché cache des écarts également très importants entre les différents acteurs selon leur mission et leur place dans la hiérarchie, Nasser Lalame.
Oui, tout à fait. On a des inégalités flagrantes entre ceux qui sont qui charbonnent, comme le veut le jargon du milieu.
Le charbonneur, c'est le vendeur.
C'est le vendeur. Le vendeur, ou dans certains endroits, c'est aussi celui qui est chargé du réassort, c'est-à-dire qui va réapprovisionner. Mais en gros, c'est le revendeur. Et entre celui-ci et puis le grossiste ou la tête de réseau. On a des facteurs de 1 à 20, voire plus, entre le gain du guetteur et le gain de la tête de réseau. Donc, il y a un côté un peu mirage dans cette histoire. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. C'est-à-dire ceux qui vont gagner véritablement sont finalement peu nombreux. Mmh. On a une quantité de personnes qui vont être des petites mains du trafic et qui vont gagner... Alors évidemment, quand on n'a rien, c'est toujours intéressant d'avoir quelques dizaines d'euros. Mais qui vont gagner, allez, en gros, si on rapporte ça en plus au taux horaire, ça rajoute encore à la précarité en fait de ce trafic. Donc on a des ouvriers du trafic en quelque sorte qui sont les plus importants, les plus visibles, les plus vulnérables aussi de la part des services de police et qui constituent le gros du business et qui sont visibles et qui ont un impact aussi social auprès de ceux qui trafiquent pas, auprès de la population, auprès de ceux qui tentent de s'insérer légalement. Qui voit ces jeunes qui se font quand même un peu de blé, quoi, pour dire les choses un peu crûment, et ceux-là qui essayent de s'en sortir en en suivant des parcours légaux, c'est compliqué parfois.
Précarité et dangerosité, ce sont les deux aspects qui caractérisent ces petites mains du trafic, Claire Andrieux.
Oui, alors précarité, le problème c'est que ça, on parle de personnes qui sont très très jeunes et qui n'ont pas forcément l'âge de travailler légalement, donc en fait c'est des personnes qui sont déjà impliquées dans le trafic en étant encore à l'école ou justement en se déscolarisant, qui sont d'ailleurs souvent elles-mêmes consommatrices de cannabis, donc ça en fait c'est tout un milieu. Nasser parlait des fratries, c'est extrêmement vrai, on le retrouve beaucoup beaucoup dans les enquêtes de police, et notamment quand les personnes montent un peu en grade, on se rend compte que la famille c'est vraiment un socle sur lequel les trafiquants comptent par sécurité et par confiance. Et puis le fait aussi que c'est une petite main d'œuvre facilement interchangeable. Un mineur va pas, bon déjà il ira rarement, voire pas du tout en prison pour avoir fait le guet, même s'il a interpellé. Et puis ça se remplace facilement. En fait, au bas de la cité, on peut en trouver très rapidement qui vont pour quelques centaines d'euros, voilà, prendre la place d'une équipe. Par contre, ce que je trouve aussi voilà, un peu inquiétant, c'est ce côté, on rentre dans le trafic pour les jeunes d'une façon un peu déterminée, alors qu'en fait, il y a aussi d'autres trajectoires. Il y a aussi tout un tas de jeunes qui vont trafiquer et qui, finalement, après un passage en prison ou alors après une rencontre d'une petite amie sérieuse ou d'une petite remontée de bretelles, eh bien, vont changer de trajectoire et finiront pas trafiquant. Parce que après, ceux qui montent vraiment dans les échelons sont rares. Le problème pour la première catégorie, c'est que ils se sont coupés de l'apprentissage scolaire et aussi de l'apprentissage de la norme sociale dans laquelle on est. Et ça, je pense que c'est un énorme problème du trafic aujourd'hui, qui est aussi assez communautaire, hein, mine de rien. C'est aussi il y a aussi des liens assez forts avec les pays producteurs, notamment au Maghreb, de ces familles-là. Et c'est vrai que je pense que c'est un cercle vicieux qui est difficile à enrayer. Et qui et dans lequel le trafic a un impact important.
Si on regarde les chiffres du nombre de personnes qui est impliquée dans cette économie de la drogue, ce sont des chiffres très importants qui sont peut-être un petit peu faussés par le fait que la plupart des personnes qui participent à la vente de stupéfiants ont une activité légale à côté, Nasser Lalame.
Alors, effectivement, quand on regarde les statistiques policières, c'est du déclaratif, on constate qu'un certain nombre, effectivement, des revendeurs trafiquants déclarent un emploi. Alors, il ne faut pas être dupe, effectivement, c'est une stratégie de la part du trafiquant de montrer qu'il est inséré socialement et que de cette façon, il pourra obtenir la clémence du juge. Mais quand on regarde de près, en réalité, c'est très souvent, c'est la précarité qui domine. Ce sont des bas niveaux de qualification. Il y a une expression en anglais qui dit les NEET, ce sont ceux qui sont sans emploi, sans formation et sans qualification. Donc c'est effectivement une tendance générale. Encore une fois, comme le disait Claire, il y en a qui sont vraiment sur la brèche, c'est-à-dire qu'il suffit de peu de choses pour éviter qu'ils basculent dans le trafic. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'offre disponible, c'est difficile pour eux d'accepter un certain nombre de métiers. Ils voient leurs parents qui ont travaillé dur pour des salaires parfois pas très confortables. Ils veulent pas reproduire ça pour un certain nombre d'entre eux et en fait ils s'inscrivent aussi dans l'économie mondiale, dans la soif de consommation, dans le paraître, etc. Donc ils veulent profiter des fruits de l'économie d'une certaine manière.
Et alors où se situent les points de deal d'Assir Lalame? Auparavant, la vente se concentrait à l'intérieur des villes, mais elle a été repoussée en périphérie.
Alors, ça, c'est l'aspect urbain de l'urbanisme. Autrement dit, les enjeux urbanistiques qui sont produits à Paris en particulier, je pense au démantèlement de l'îlot Chalon, qui était un lieu de trafic, a participé à la propagation du petit trafic en proche banlieue. Et en fait, on se rend compte qu'il y a ce fameux effet ballon qui joue. C'est-à-dire quand on exerce soit sur un plan répressif, soit sur un plan plus de transformation urbaine, on va déplacer le phénomène. C'est ce qui s'est produit dans les années 70-80 avec l'héroïne, et c'est ce qui se produit encore aujourd'hui avec le cannabis, où on a la gentrification de certains quartiers proches de Paris, et on voit le phénomène se déplacer vers la Grande Couronne. Donc là, on a un phénomène qui est intéressant à observer de ce point de vue-là.
Peut-être que c'est difficile de savoir où se fait le deal aujourd'hui, Claire Andrieux, parce que l'activité se déplace en fonction de la répression et aussi parce que ce sont de plus en plus les vendeurs qui se déplacent chez les clients.
Oui, c'est très vrai sur la deuxième partie. C'est pas spécialement difficile parce que moi, pour avoir travaillé 10 ans sur le terrain, pendant 10 ans, on avait ce dont on parle encore aujourd'hui à Saint-Ouen, au pied des mêmes tours, à Saint-Denis, au pied des mêmes tours. C'est-à-dire que il y a aussi des endroits qui sont, de par leur facilité d'accès avec le centre urbain parisien, par exemple, qui resteront des points de deal. La police va arriver, va faire le ménage et peut-être une équipe de trafiquants partira en prison quelque temps, mais le territoire sera vite repris parce que c'est intéressant dans tous les cas. Donc c'est très difficile pour la population qui habite sur place. Et puis évidemment, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire eh bien toute la ubérisation du trafic, c'est-à-dire c'est vraiment le principe des taxis Uber où on a des vendeurs qui se déplacent avec au départ c'était des petites Smart, maintenant ils se fondent dans la masse des VTC parisiens la nuit pour aller livrer surtout la cocaïne avec voilà, la nuit des tournées classiques, des personnes qui les appellent. Il y a une centrale qui répond et puis qui peut renvoyer vers 2 ou 3 chauffeurs qui font la tournée pour livrer des clients de plusieurs quantités de cocaïne à la demande, quoi. C'est vraiment comme Pizza Hut, quoi. C'est vraiment le même principe.
Un gramme de cocaïne, c'est 70 euros. Moi, dessus, je prends 10 euros. Si la livraison est loin, je vais prendre 20 euros. Plus on va multiplier les grammes par commande, plus je vais prendre de l'argent sur la livraison. Un kilo de cocaïne, ça coûte entre 28 000 euros et 33 000 euros. 35. Tu multiplies ton bénéfice par 2. Tu comptes, hein, ça fait presque 70 000 euros. Dans une vingtaine de jours, le kilo, il peut partir. On va le détailler en grammes. Pas exactement en grammes. C'est 0,96, 0,98. Jamais 1. L'illusion, c'est que le 1 gramme, c'est le plastique, voilà, qui arrondit le chiffre.
Voilà le témoignage d'un dealer de cocaïne recueilli par Arte Radio. Si ce marché brasse tant d'argent, c'est aussi parce qu'une bonne partie de la clientèle est aisée, Nasser Lalam.
Effectivement, 70 euros pour 1 gramme, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être inséré socialement, faut effectivement disposer d'un, être solvable, disposer d'un capital pour pouvoir se permettre une consommation d'une. Très souvent, la cocaïne reste associée quand même au milieu festif. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une recrudescence de la consommation de crack, notamment en région parisienne et à Paris, qui est liée à la disponibilité plus importante de cocaïne. Et là, c'est un produit qui est plus accessible, parce que le caillou va se négocier autour d'une dizaine d'euros, et qui le rend plus à la portée d'un consommateur quelconque.
Et alors, à propos des retombées économiques de cette vente de drogue, Nasser Lalam, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, et notamment sur les territoires? Qu'est-ce que l'on constate?
Sur les territoires, le trafic a un effet délétère sur le plan économique. On sait qu'un certain nombre de personnes qui souhaitent accéder à la propriété, les premiers éléments qu'ils vont consulter, c'est le niveau de délinquance quand les informations sont disponibles, et y compris les agences immobilières. Donc c'est un effet sur le bâti, sur le prix du mètre carré. Et donc ça a tendance à enfermer ces quartiers dans leur paupérisation, en quelque sorte.
Mais le problème, c'est que ça fait vivre en même temps toute une partie de cette population.
Exactement. Donc c'est cette ambivalence, c'est-à-dire que en même temps, ça fait baisser le foncier, et en même temps, ça fait vivre tout un. Enfin, on peut pas dire faire vivre tout un quartier, mais en tout cas, ça participe à la vie d'un quartier. Encore faut-il distinguer les quartiers. Il y a des quartiers qui gagnent, il y a des quartiers qui gagnent moins, parce que c'est des quartiers plutôt introvertis, où on va avoir plutôt des consommateurs, et les trafics sont plutôt à l'extérieur. Donc ça va dépendre de la configuration du marché. Mais lorsque le quartier gagne, effectivement, il y a des retombées. Il y a des retombées économiques sur les commerces de proximité. Parfois, ça peut aider à payer des loyers, ça peut aider à faire des courses, etc. Donc, dans des climats, effectivement, de relégation, dans des zones de relégation, ça peut aider certaines familles, incontestablement.
Claire Andrieux, un mot sur ces retombées économiques, sur l'ambiguïté de ces retombées.
Oui, parce que ça peut aussi être investi dans du commerce légal, venir en soutien soit à l'investissement d'amis, de proches qui vont ouvrir une supérette ou un kebab ou que sais-je. Et ça peut également servir à blanchir de l'argent par la suite dans ces commerces-là. Donc finalement, c'est aussi un intérêt important des trafiquants que d'avoir un investissement local. Et on le retrouve dans les enquêtes régulièrement où on voit des retours de blanchiment d'épiceries dans lesquelles on a un épicier qui va dormir sur des centaines de milliers d'euros. Mais physiquement, on a eu ça dans des affaires de blanchiment importantes. Et c'est vrai que c'est malheureusement pour le quartier, c'est voilà, il y a ces deux côtés, c'est-à-dire à la fois il y a l'investissement économique et à la fois il y a la mauvaise image d'un quartier, la dangerosité, puisque ce sont aussi beaucoup de conflits. Le trafic de drogue et les trafiquants génèrent énormément de conflits qui ne se règlent que par la violence.
On va venir à ces conflits en effet et aux conséquences sociales de cette économie de la drogue. On va voir aussi comment les autorités essayent d'entraver le trafic dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Les pains d'un pauvre maître pressé le mène à une mort certaine et précoce, il le sait. Depuis le jour où il a vu son frère échanger un sachet blanc contre de l'argent avec un mec du quartier, alors pourquoi ne pas faire comme lui? Il trouva de l'argent pour acheter son coin de paradis, un billet en première pour l'extase en charter. C'était bien cher payé pour une jouissance éphémère. Et aujourd'hui, quelle est son existence? Vendre des petits paquets pour assouvir sa dépendance. Et une nuit tout bascula, pendant qu'il vendait une patrouille l'embarqua. Il ne revit sa ville qu'à travers des barreaux et mourut seul avec sa dernière dose d'héro. Il n'y eut personne pour pleurer lors de l'enterrement. Le sachet blanc vend un mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Une rue sombre, une limousine s'y engage. En face d'elle, une Cadillac attend sous l'orage. On sort la marchandise et la petite valise. La tension s'attise sous les gabardines grises. Car les gars qui sont là n'ont plus rien à prouver. Dans le style enfoiré, ils se sont affirmés. La conscience tranquille, ils peuvent rentrer à la maison sûre et certains de ne jamais finir en prison normale. Ils n'arpentent pas les trottoirs et n'ont aucune idée de ce qu'est le désespoir pour eux. Il n'est qu'à faire de monnaie et qu'importe le prix, ils n'auront pas à le payer. Il neige sur ma ville, des flocons d'héroïne, le style de poudreuse qui vous plonge dans l'abîme. Pendant que certains se frottent les mains, pensant à l'argent qu'ils vont amasser le lendemain.
Le sachet blanc d'Ayam sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nasser Lalame et Claire Andrieux sont toujours avec nous pour parler de l'économie du deal dans les cités. Une économie que David Simon a si bien su rendre dans The Wire sur Écoute en français.
Yo, shit is late.
Yeah, they still violent up.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une couille avec la cam? Ouais, c'est à eux de faire les doses. D'habitude, c'est livré, t'as plus qu'à fourguer. Là, faut tout mettre en capsule.
Eh, hey, t'aurais pas un truc à tester, man?
Ouais, tout à l'heure.
Tout à l'heure? Eh, hey, t'aurais pas un truc à tester?
Putain, c'est même pas 9h et tu viens nous taxer de la dope? Allez, casse-toi, fais pas chier!
T'entends comme tu lui parles? C'est quoi ce plan? C'est tous des enculés, ces junkies. Tu lui prends ses thunes, mais tu le traites comme un chien, c'est pas mal ton truc. Et comment je devrais le traiter?
J'en sais rien.
Mais je sais que t'as pas à le pourrir comme ça.
Il se pourrit tout seul, bah. C'est qu'un putain de tox.
Ouais, et toi, t'es qu'un putain de dealer.
Et alors? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le client a toujours raison, c'est ça?
Eh, hey, ici c'est la cité, mec. Le client se fait baiser, c'est la loi. Y a pas de cadeau à leur faire à ces négros.
Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vas quand même pas me dire qu'on peut pas faire notre business sans que tout le monde se massacre? Ça saigne de partout. On dirait que vous dressez des chiens.
Et en plus, on n'aurait pas les keufs sur le dos toutes les 5 minutes à nous casser les couilles. Faites tourner ça dans vos cervelles.
Ah, tu délires, man.
Ah ouais, tu crois que ça les intéresse que des négros se défoncent dans leur tour de naze? Ce qui intéresse les keufs, les mecs, c'est les cadavres, c'est tout. C'est pour ça que tu les vois appliquer.
Tendait D'Angelo, le responsable d'un point de vente de drogue dans les quartiers ouest de Baltimore, expliquait à ses dealers Put, Body et Wallace comment traiter leurs clients. Extrait de la série The Wire de David Simon. Claire Andrieux, que vous inspire cet extrait?
Plusieurs choses. C'est vrai que, en fait, les trafiquants savent très bien utiliser des personnes un peu faibles, un peu ceux qui ont des problèmes de toxicomanie, ceux qui sont un peu simples d'esprit. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il avait utilisé une personne de son entourage un peu simplée, par exemple, pour faire une doublette de papier d'identité, en prenant son permis de conduire. Voilà, la personne, de toute manière, avait une double nationalité, donc il avait un des deux jeux de papier qu'il avait bien voulu refaire avec la photo du trafiquant que j'avais rencontré. Et puis aussi que les trafiquants, voilà, sont malins, sont aussi des vrais commerçants. Malheureusement, c'est ceux qui montent en gamme font preuve aussi d'une vraie intelligence à la fois de service et à la fois de commerce, qui malheureusement, voilà, pas forcément au service d'une bonne cause.
Et le mois dernier, une fusillade a fait 2 morts à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, de jeunes de 17 et 25 ans impliqués dans le trafic de drogue. Ce sont ces violences, mais aussi les nuisances quotidiennes qui créent un climat particulièrement difficile à vivre dans un certain nombre de quartiers, Nasser Al-Alam.
Oui, tout à fait. La violence est consubstantielle. On voit bien de plus en plus avec les sommes qui sont en jeu. Un four peut aller jusqu'à, dans une journée, peut aller entre, parfois, de 15 000 à 20 000 euros. Et avoir 20 000 euros, ça peut attirer des tentations de saisir cet argent.
Donc 50 000 euros, je crois, dans une cité de Castellane, à Marseille.
Tout ouais. À fait. 50 000 euros quotidien, de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice. Donc ça peut susciter des convoitises, effectivement. Par ailleurs, il y a un ensemble de phénomènes qui viennent alimenter cette violence. La disponibilité des armes, déjà, qui est plus importante, premièrement. Deuxièmement, c'est parfois les sorties de prison. Donc on a des trafiquants qui étaient en quelque sorte titulaires d'un point de deal et qui sont incarcérés, mais qui souhaitent retrouver ce point de deal, sauf qu'en revenant, le point de deal est occupé et il faut renégocier. Donc la plupart du temps, ça se passe bien quand on observe. Et ce qui domine, c'est plutôt la négociation. Mais parfois, la négociation tourne mal et ça finit en soit en règlement de compte, ça peut aller jusqu'à l'homicide. Hein. On le voit à Grenoble, on le voit à Marseille, on le voit à Saint-Ouen.
Mais parfois, il y a même des négociations entre les habitants et les trafiquants pour faire respecter certaines règles. Ça a été le cas cet été dans la cité Charles Schmitt à Saint-Ouen. Les dealers ont aussi intérêt à ce que la cohabitation avec les habitants se passe le moins mal possible, Claire Andrieux.
Oui, c'est une certitude, c'est-à-dire que une mauvaise cohabitation, ce sont des descentes de police régulières qui finalement empêchent le trafic de se dérouler correctement. Et pour les habitants, la difficulté, c'est que dans ces moments justement de descente de police, eh bien, il y a des armes qui sont sorties, il y a des personnes qui sont sur les dents, il y a des tentatives de fuite qui peuvent se faire dans la violence. Donc c'est vrai que finalement, paradoxalement, une certaine partie de la population essaye aussi de négocier un peu, mais c'est pas la majorité. J'ai envie de dire que la majorité des personnes que moi j'avais pu rencontrer, en tout cas dans les cités par le passé, ont quand même juste très très envie qu'on y mette un terme très clair et qu'il n'y ait pas de deal en bas de chez eux et pas de négocier. Et on l'a vu avec des associations de parents. Alors il y a eu Saint-Ouen évidemment, il y a Saint-Denis également où il y a un moment il y a des associations, enfin des habitants voisins qui sont regroupés, qui ont mis des tables en bas des cités, qui ont dit bah nous la police pas là, on va occuper l'espace pour pas que les trafiquants le fassent. Mais il y a aussi un défaitisme et un, je sais pas comment appeler ça, des habitants qui, au bout d'un moment, ne réagissent plus, ne disent plus rien, même quand on voit des enfants de 9, 10 ans faire le guet et finalement passent à côté d'eux sans rien leur dire.
C'est-à-dire ils préfèrent partir quand ils peuvent se le permettre.
Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les jeunes profs de Seine-Saint-Denis, dès qu'ils sont parents, ils s'en vont, paradoxalement.
Alors, pour lutter contre le trafic de drogue, le gouvernement a décidé de généraliser les amendes forfaitaires pour consommation de drogue, une amende de 200 euros qui vise d'abord les consommateurs de cannabis. Écoutez le premier bilan du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'était la semaine dernière.
L'amende forfaitaire délictuelle que nous avons mis en place avec le garde des Sceaux et avec Madame la Ministre, à la demande du Premier ministre, produit ses premiers effets. Et il y a eu du 1er septembre au 8 octobre exactement 9532 AFD qui ont été dressés, c'est-à-dire plus de 250 par jour, ce qui est un chiffre important. 1032 dans le premier département concerné, la Seine-Saint-Denis, 948 dans les Bouches-du-Rhône, 447 dans le département du Nord, 374 dans les Alpes-Maritimes et 346 à Paris. Je voulais dire qu'un tiers des amendes mises à Paris sont mises dans les quartiers que l'on pourrait qualifier de plus huppés, le 16e, le 8e ou le centre de Paris, ce qui montre évidemment que l'action de la police se fait partout sur le territoire national et pas simplement dans les quartiers que l'on peut considérer comme les plus difficiles.
Nasser Lalam, que pensez-vous de cette mesure consistant à cibler les consommateurs ?
La difficulté, c'est que jusqu'à présent, on a un arsenal juridique qui potentiellement pouvait s'appliquer, mais qui n'était pas appliqué, au sens où un consommateur pouvait encourir jusqu'à un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Sauf que, évidemment, l'état de la justice étant ce qu'il est, l'engorgement des tribunaux, etc., ce quantum de peine n'était pas du tout appliqué.
Donc, il y avait une volonté peut-être de poursuivre davantage les trafiquants que les consommateurs.
Exactement. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'il s'agit de s'en prendre aux deux bouts du marché, si je puis dire, aux deux aspects, c'est-à-dire à la demande et à l'offre. Alors, du côté de la demande, c'est de dissuader le consommateur de consommer, en tout cas dans l'espace public, parce que c'est là que ça génère des nuisances. Et puis, il s'agit de montrer, de rappeler l'interdit.
Alors, mais est-ce que ça peut marcher ? Parce que quand on voit du côté du Portugal, par exemple, qui dès 2001 a autorisé la consommation de toutes les drogues, non pas la vente, mais la consommation, et ça a eu pour effet de plutôt, en l'occurrence, diminuer la consommation d'héroïne.
Oui, c'est vrai qu'il est intéressant de s'inspirer des expériences européennes. Au Portugal, ce qui s'est passé en 2001, effectivement, est intéressant dans la mesure où c'est décriminalisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de sanction administrative, hein, au sens où on demande aux consommateurs de se soumettre à un ensemble de soins, etc. Néanmoins, l'amende forfaitaire délictuelle, elle a pour principe d'abord, effectivement, de désengorger les tribunaux et de sanctionner de manière effective le consommateur. Parce qu'on reste dans ce paradigme où la drogue est interdite, qu'elle soit, que ce soit sous l'angle de la consommation, sous l'angle de l'offre, de la distribution, on reste sur la loi de 70. On ne fait pas de distinction entre drogue dure, drogue douce. En l'occurrence, en France, on reste attaché à ce principe de la loi de 70.
Mais certains dénoncent une politique toujours plus répressive en matière de stupéfiants qui ne fonctionne pas, parce qu'en effet, on l'a dit, le nombre d'usagers ne baisse pas, alors que la France a l'une des politiques les plus dures en la matière, Claire Andrieux.
Ça dépend de quoi on parle, c'est-à-dire que effectivement concernant les consommateurs, effectivement la France reste un pays répressif qui choisit de ne pas dépénaliser, sachant que les exemples autour de nous vont pas forcément tous dans le sens d'une baisse de la consommation. Je pense à l'Espagne qui a également dépénalisé la consommation, je pense aux Pays-Bas qui voient pas une différence énorme avec la consommation française et par contre sont des plaques tournantes du trafic vraiment de façon très, c'est admis par toutes les services répressifs. Par contre, on a en France, je dirais, envie d'agir contre les trafiquants avec des lois qui sont plutôt sévères, mais finalement pas beaucoup plus qu'à l'étranger. Et dans le livre, je faisais référence à une étude de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies qui m'avait beaucoup surprise. C'est que finalement, la France est loin, mais très loin, d'être un des pays les plus sévères en termes de peine contre les trafiquants. voire un des plus laxistes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, moi, j'ai surtout travaillé avec des enquêteurs, donc c'est vrai que j'ai surtout ce prisme répressif. Ils font souvent valoir que finalement, le trafic, je parle du trafic et pas de la consommation, est très peu réprimé. C'est, je crois, 13 mois en moyenne le quantum des peines prononcées pour trafic en 2018. Quand on voit effectivement et quand on connaît les moyens de d'alléger ces peines et de les aménager, c'est effectivement une sanction qui pour eux leur paraît plutôt faible.
Voilà qui pourrait donner du grain à moudre à ceux qui diraient Nasser Al-Alam qu'il faut au contraire une politique plus répressive envers les trafiquants afin de lutter véritablement contre ce phénomène.
Alors c'est intéressant de voir l'évolution de justement d'une structure qui est en charge de la lutte contre le trafic, qui est désormais l'OFAST, qui a bien pris la mesure justement de cet enjeu et qui va déployer des moyens y compris sur un plan territorial avec la mise en place de cellules de renseignement opérationnelles, à mesure de considérer qu'ils étaient sur l'échelle internationale. Non, ils ont compris qu'il fallait effectivement combiner cette dimension internationale avec le local. Donc ça c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect qui maintenant depuis à peu près une dizaine d'années, c'est la question patrimoniale. C'est-à-dire que le trafiquant est sensible à cette dimension patrimoniale. C'est-à-dire quand on s'en prend à son patrimoine, que ce soit patrimoine financier, patrimoine immobilier, etc., il est très sensible. Et ça a un impact véritablement sur justement sa pratique. La question c'est, est-ce qu'on est capable de recouvrer de confisquer jusqu'au bout, c'est-à-dire que aujourd'hui dans le dispositif on arrive à saisir mais on a du mal à confisquer.
Alors c'est important, effectivement il y a plusieurs points que vous soulevez ici Nasser Al-Alam. Vous avez parlé de ce nouvel organisme chargé de coordonner la lutte contre les trafics de drogue, l'OFAST, qui a été créé il y a un an. Est-ce que cela a permis, alors le bilan évidemment un petit peu trop tôt sans doute Claire Andrieux, mais est-ce que ça devrait permettre de changer la donne et de permettre que les différentes administrations se coordonnent mieux?
C'est tout l'enjeu en tout cas de cette OFAST, effectivement, c'est de faire travailler les douanes qui dépendent du ministère de l'économie et dont le but est principalement de saisir la marchandise puisqu'ils travaillent sur le flux, avec la gendarmerie qui elle est présente dans les territoires ruraux, où on voit des fermes de cannabis se monter maintenant avec des trafiquants qui se réorientent un peu, et où parfois des gros trafiquants également stockent de la marchandise, avec la police nationale et les anciens enquêteurs de l'Office central des stupéfiants qui sont les mieux renseignés. Et même d'ailleurs à l'échelle internationale, ça m'a été plusieurs fois remonté que la police et les enquêteurs français sont, en termes d'informations, très bien placés sur la lutte mondiale contre le trafic de stupéfiants. Mais la grande difficulté, c'est effectivement de les faire travailler ensemble, mais surtout de travailler correctement à l'international dans un cadre judiciaire qui convienne à tout le monde. Et l'international, c'est vraiment important parce que, comme disait Nasser, les trafiquants sont sensibles au portefeuille. Et ce qu'on constate, c'est que dès qu'ils deviennent très riches, qu'ils passent des paliers de centaines de millions d'euros, ils investissent plus en France, ils investissent tous à l'étranger. On les retrouve à Dubaï, on les retrouve parfois en Turquie, dans certains pays d'Amérique latine, et là l'argent n'est plus sur le territoire. Donc effectivement, la coopération internationale est un vrai enjeu.
L'enjeu, c'est effectivement cela, c'est de s'en prendre aux collecteurs de fonds qui font sortir l'argent du pays. Nasser Al-Alam, sur ce point et sur le fait que c'est, comme le disait Claire Andrieux, c'est une stratégie qui nécessite une plus grande coopération, au moins européenne.
Tout à fait. Il y a une vraie professionnalisation des trafiquants, des blanchisseurs en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a une utilisation des systèmes existants, le système Hawala de compensation, qui permet de parfois, y compris, de ne pas faire sortir l'argent du pays et de pouvoir obtenir ensuite l'équivalent dans un pays tiers sur un compte, à travers un virement. Et donc tout l'enjeu effectivement au niveau européen, c'est déjà de parler d'une même voix et d'avoir une harmonisation. Il y a les directives anti-blanchiment, on en est je crois à la cinquième directive anti-blanchiment, qui donc petit à petit s'étoffe et intègre dans son cadre à la fois plus, des professions de plus en plus importantes et aussi sur des pratiques, des modalités de blanchiment qui sont de plus en plus techniquement élaborées, soit au contraire on en vient à des techniques très ancestrales. Donc il y a ces deux aspects qui cohabitent.
Claire Andrieux, vous nous disiez une politique répressive sur la consommation, mais peut-être pas assez ferme sur la vente, le trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui durcir celui-ci et au contraire alléger la répression à l'égard des consommateurs?
Je c'est pas spécialement mon avis qui est intéressant. Je pense que c'est surtout aussi les personnes qui sont impliquées dans la lutte contre le trafic qui m'ont fait part de eux, leurs sentiments après des années de service. Et c'est vrai qu'il y a parfois une vraie frustration de voir des trafiquants qui retournent en liberté très rarement ou pour des vices des procédures. Ça, c'est extrêmement mal vécu de la part des enquêteurs et on le comprend très bien. En même temps, voilà, la procédure pénale est là pour garantir aussi une administration de la preuve qui soit égale pour tout le monde et qui respecte la législation française. Après, la difficulté, c'est aussi de travailler avec des pays, par exemple d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud, c'est peut-être plus facile parce qu'on a même une équipe commune d'enquête sur place, une équipe de Colombiens qui est payée par la police française. Donc on a des bonnes relations. Enfin, je sais que les enquêteurs travaillent bien avec eux, même si pour le coup, le pays a beaucoup de mal à contrôler la drogue sur son territoire et c'est extrêmement vaste et c'est des zones qui sont inaccessibles. Au Maroc, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre pourquoi est-ce que on n'a jamais ce sujet qui est abordé dans les relations diplomatiques de façon franche. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a des enquêteurs qui travaillent très bien avec le Maroc, mais ce n'est jamais acquis, ce n'est jamais simple, et il y a un vrai enjeu pour le Royaume, pour le coup, économiquement, de tenir cette région du Rif où est produit la totalité du cannabis au Maroc et qui ne vit que grâce à cet argent-là. Donc en fait, on a des configurations très différentes, que ce soit sur la production ou après, avec, on peut aussi citer les Émirats arabes. Là, pour le coup, c'est une autre coopération, c'est sur le financier, parce que l'argent transite par là-bas ou est directement investi là-bas. Et là, ce sont d'autres intérêts, c'est-à-dire que les Émirats vont capitaliser sur cette discrétion bancaire et d'investissement pour attirer des riches entrepreneurs qui sont parfois des trafiquants.
Alors un tout dernier mot, Nasser Lalam, parce que malheureusement, le temps file. Sur une possible légalisation du cannabis, est-ce que ça ne permettrait pas l'émergence d'un nouveau marché déjà? Est-ce que ça ne fournirait pas des revenus supplémentaires à l'État tout en permettant de concentrer les moyens policiers sur les drogues dures? Ça, c'est pour les arguments pour. Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser Lalam?
Bon, moi, je ne prends pas position sur compte tenu de mon poste aujourd'hui. Je ne peux pas dire oui ou non. La question, c'est de savoir ce qui se passe ailleurs et que peut-on en tirer en termes d'expérience, notamment aux États-Unis, au Canada, en Uruguay, bientôt en Nouvelle-Zélande sans doute, de voir est-ce que la légalisation du cannabis, c'est pas toutes les drogues, hein, c'est du cannabis dont il s'agit, qu'est-ce que ça produit en termes de santé publique, en termes de sécurité, en termes économiques, en termes de réallocation des ressources répressives, justement. C'est toutes ces questions qu'il faut mettre sur la table et de voir si on est prêt à assumer ce risque, étant entendu qu'aujourd'hui, il y a déjà des pas qui sont faits en direction du cannabis thérapeutique. La France y compris est en train de bouger sur ces lignes. Du point de vue législatif.
Et de façon effectivement encore très, très contrôlée, le débat est effectivement encore très présent et on aura l'occasion d'en reparler et de voir les arguments des uns et des autres. Un grand merci à tous les deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Votre enquête, Claire Andrieux, est publiée aux éditions de Noël, je le rappelle, le titre c'est La guerre de l'ombre. Merci également à France Bleu Pays d'Auvergne qui a assuré ce duplex. Tout de suite, c'est l'heure de l'actualité économique.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et le journal de l'écho vous est présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Après l'effondrement, la reprise et après la reprise, l'accélération de la croissance chinoise. La crise semble derrière et la Chine est devant tout le monde. Est-ce le moment du grand découplage?
Eh bien avec presque 5% de croissance au troisième trimestre, la reprise chinoise est unique au monde par son ampleur et parce qu'elle est véritablement la seule. Du point de vue froid et dur donc du PIB, la crise sanitaire est effacée. L'agence Chine Nouvelle égrène ainsi les bons commentaires des analystes les plus reconnus des marchés au sujet de sa reprise en V comme victoire, bien sûr, et les perspectives pour 2021 ne sont pas moins bonnes avec pour l'instant, plus de 8% de croissance prévue. En fait, selon les chiffres du début de semaine, les principaux moteurs de la croissance ont repris à presque 100% des niveaux d'avant le Covid. La production industrielle, automobile, matériel médical et informatique, les services et les exportations sont de nouveau en hausse. Bref, grâce à sa gestion radicale de la pandémie, explique l'investisseur et essayiste David Bavrez dans Les Échos. Et ce n'est pas le seul. Pékin a pu relancer son économie plus tôt et plus vite et à moindre coût que le reste du monde, qui lui stagne encore dans la lutte sanitaire. C'est donc le premier découplage.
Mais le deuxième découplage, Xavier, est plus inquiétant, c'est celui d'une reprise à deux vitesses.
Oui, une expression du correspondant des Échos à Pékin, Frédéric Schaeffer. En fait, une série de fragilités qui pourraient être de véritables fractures. D'abord, la crise a fait des dégâts, le chômage officiel est encore seulement en ville, est à 5,4% à 10% plus probablement, avance le monde, et le creusement abyssal des inégalités sociales cette année est propre à stimuler tous les scénarios d'explosion. Sur le plan territorial, selon le South China Morning Post, la reprise touche moins les régions que Shanghai, Pékin, Guangdong, les grosses agglomérations, et moins les PME que les grosses entreprises, et puis beaucoup d'interrogations aussi sur une croissance dopée par les investissements publics, alors que la consommation intérieure stagne à 40% du PIB, des niveaux inférieurs aux pays OCDE, ce qui fait que la Chine pourrait ne pas réussir son va-et-vient.
C'est-à-dire, Xavier ?
En réalité, c'est la double circulation, explique Frédéric Schaeffer. Le principe, le nouveau nom en fait de ce principe bien connu que Pékin veut appliquer dans son prochain plan quinquennal en mars, et qui prévoit un rééquilibrage de la croissance actuellement calibrée pour l'export vers son marché intérieur. Équilibre périlleux alors que les salaires ralentissent, les incitations aux particuliers sont faibles et que 600 Chinois vivent avec moins de 125 euros par mois.
Pourtant, Pékin aurait déjà trouvé ses nouveaux relais de croissance.
Oui, là, deux basculements intéressants. Pour David Vavrez encore, la croissance chinoise est en train de changer de nature en se connectant à toute vitesse. Témoin, dit-il, les investissements gigantesques de 400 milliards de dollars dans le numérique qui prennent le relais de l'immobilier en ralentissement. Rien que Shanghai, par exemple, a déjà construit autant de relais 5G que le prévoit la France pour 2025. Deuxième aspect, le verdissement. Selon le spécialiste des métaux, Didier Julienne, l'annonce il y a moins d'un mois par Xi Jinping de la neutralité carbone d'ici 2060 implique une baisse de 60% de la consommation charbon, une hausse de 30% des énergies renouvelables d'ici 5 ans. C'est donc le yin et yang non officiel du carbone, autre équilibre délicat. Or, pour l'atteindre, c'est Reuters qui le dit, le Parti communiste serait même prêt à ne plus fixer d'objectifs de croissance ou d'objectifs intenables. Une première, le chiffre tournerait autour de 5%, presque deux fois moins qu'entre les réformes de 78 et 2014, basculement historique.
Reste enfin le découplage comme menace, celle d'une Chine séparée d'une partie du monde ?
Oui, fantasme pour certains ou déjà commencé pour d'autres. La question est de savoir qui en bénéficiera, les États-Unis avec leurs restrictions ou bien la Chine par sa montée en gamme, car même si le « Made in China » 2025 est devenu le China Standard 2035. L'objectif reste le même, devenir le premier prescripteur de normes mondiales. Or, non seulement l'Union européenne commence à prendre des positions plus fermes, la Suède est devenue mardi le premier État membre à avoir également banni Huawei, mais en plus, en se concentrant sur les hautes technologies et le secteur bancaire, la guerre commerciale a muté et devient plus dangereuse pour Pékin, écrit Virginie Mangin dans le Figaro, s'appuyant sur une étude de Bloomberg qui estime la perte de 1,6% de points de croissance pour la Chine contre 0,3 pour les États-Unis. Si le découplage est effectif d'ici 2030, alors Pékin pourrait-elle tenir avec une croissance à 4,5%? Comme pour moi, en tout cas, sans conclusion, plus dure sera la chute.
Merci beaucoup, Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à retrouver sur franceculture.fr.
Some coke, have some weed. You know me, I'm your friend, your main boy, thick and thin. I'm your pusher man. I'm your pusher man.
À toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Félix Levacher, à la technique aujourd'hui Alex Dang. Demain, notre débat du vendredi opposera Thomas Piketty et Michel Husson autour de la notion de capital. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'excellente application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Silently.